voix nue. Cette semaine, Charlotte Bien-Aimée rencontre Christine Delphi. Ce soir, Libération des femmes, année zéro.
Bonsoir Christine Delphi.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS dans le domaine des études de genre. Vous avez forgé les concepts de travail domestique, de patriarcat, de genre et vous avez participé à mettre en place l'école de pensée du féminisme matérialiste. Vous êtes aussi une militante historique du mouvement féministe et c'est ce parcours militant extrêmement riche des années 70 notamment que nous allons évoquer aujourd'hui ensemble. Christine Delphi, nous sommes donc en 1965, vous revenez des États-Unis, où vous avez vécu pendant 3 ans, et dès votre retour, vous nous l'avez expliqué hier, vous avez en tête de mettre en place un mouvement politique de femmes, mais vous souhaitez aussi travailler sur les femmes en tant que doctorante. Vous allez en être empêchée. Qu'est-ce qui s'est passé, Christine Delphi ?
Ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé avec Pierre Bourdieu, il était assistant de Raymond Aron pendant mes années de licence à la Sorbonne. Et je lui ai dit que je voudrais faire une thèse de troisième cycle et que ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur les femmes. Et il m'a dit que ça n'existait pas, que personne n'a travaillé sur les femmes. Donc je ne pouvais pas avoir, disons, un directeur ou quelqu'un qui m'aide dans ce domaine-là. Et je n'ai découvert que plusieurs années après qu'André Michel et d'autres avaient travaillé sur les femmes. Donc moi, je voulais soit travailler sur les femmes, soit travailler à la campagne. Donc j'ai choisi une équipe de sociologie rurale. Ce premier job que j'ai eu, c'était de réaliser des entretiens auprès de familles qui vivaient dans la partie nord de Bourgogne sur beaucoup de sujets, en particulier sur leur famille. Et malgré tout, j'ai recueilli des choses sur les femmes, des questions qui n'étaient pas dans le questionnaire. On avait un questionnaire, c'était incroyable, ça prenait 1h30 de le faire remplir. Et la plupart du temps, c'était des femmes qui répondaient, parce que les hommes étaient au champ. Et par exemple, ça m'intéressait de voir si elles avaient des moyens de contraception, et elles n'en avaient pas. Elles comptaient sur... elles me laissaient entendre qu'elles comptaient sur le coitus interruptus, mais que leurs hommes ne voulaient pas de ça. Parce qu'elles avaient des familles énormes. Et leurs familles d'origine étaient encore plus grandes. Hein. C'était des familles où il y avait facilement 12 enfants, et elles en avaient 7 ou 8. Et puis, comme c'était sur la transmission du patrimoine, on voyait bien le désavantage des femmes. Elles ne devenaient jamais, elles n'étaient jamais chefs d'exploitation. Elles pouvaient être que la femme d'un chef d'exploitation. Et les femmes, j'ai bien vu comment elles travaillaient. Bon, je l'avais vu avant, hein, et je l'ai vu après. C'est-à-dire qu'elles travaillaient autant que le chef de famille, le chef d'exploitation, mais elles n'avaient rien à elles.
Alors ce travail vous servira de socle pour développer quelques années plus tard votre théorie sur le mode de production domestique et l'exploitation économique des femmes, dont nous parlerons plus en détail dans l'épisode de demain, parce qu'avant cela arrive mai 68. Quel souvenir gardez-vous de mai 68, Christine Delphi ?
Moi, je me demandais à ce moment-là si je ne devrais pas m'inscrire dans un parti. Enfin, j'avais envie de... Mais je ne savais pas lequel choisir. J'étais vraiment nulle hein, au point de vue politique. Un jour, je sortais de là où je travaillais, qui était un très bel ancien hôtel particulier où l'équipe de mon patron et puis l'équipe de Bourdieu aussi étaient logés et qui était en plein quartier latin. Et j'étais avec un collègue et tout d'un coup, on s'est retrouvés dans une foule et cette foule essayait de traverser la place Saint-Sulpice. Et ne pouvait pas parce que cette place était pleine de flics de différentes dénominations qui hurlaient en agitant leur bâton. Et j'ai vu une chose que j'ai trouvée incroyable. De l'autre côté de la place, il y avait une rue évidemment qui n'était empruntée par aucune voiture puisqu'elle était occupée par les flics. Et j'ai vu des flics taper avec leur bâton comme des fous sur une voiture qui était fermée et dans laquelle il y avait des parents et des enfants. Et d'un seul coup, d'un seul, je me suis dit, voilà, on a affaire à des bêtes sauvages, là. Et d'un seul coup, c'est moi qui n'étais pas du tout impliquée là-dedans, parce que je n'étais plus étudiante depuis longtemps, donc je n'étais pas particulièrement au courant de ce qui s'était passé, mais ça m'a amené... retourner le sang, cette violence m'a retourné le sang et m'a fait quasiment forger une opinion sur ce qui se passait, sur mai 68.
C'est aussi en 68 que vous rencontrez le premier groupe ou l'ébauche d'un groupe féministe, Féminin Masculin Avenir.
Oui, c'est ça.
Et vous participez à sa création ?
Non, j'ai pas participé à sa création. Elles avaient créé ce groupe. Moi, j'ai rencontré l'une d'elles, Jacqueline Feldman, qui m'a expliqué ce que c'était, mais très brièvement. Hein, je l'ai rencontré à la porte du siège social du CNRS. Et elle m'a expliqué ce que c'était. Je lui ai dit, mais c'est formidable. Moi, je fais partie de votre groupe. Et voilà. Bon, on a eu quelques réunions entre nous. Je me souviens de deux conférences qui ont été faites. L'une par Evelyne Sullerot, qui était vraiment formidable, qui expliquait que les femmes ont toujours travaillé. C'était l'idée de la femme au foyer, c'était pas du tout l'idée majoritaire. Et puis, elle expliquait que déjà au Moyen-Âge, les femmes gagnaient que la moitié de ce que gagnaient les hommes quand elles travaillaient à l'extérieur. Et puis, la suivante, c'était Gisèle Halimi, qui nous a fait énormément rire parce que elle racontait que, bon, dans un procès de divorce, elle défendait le côté de la femme. Et puis elle avait employé une phrase qui était « Cet homme avait pris des habitudes d'indépendance incompatibles avec le mariage. » Ça, c'était une phrase qui s'utilisait à propos des femmes, qu'elles avaient des habitudes d'indépendance. Et le juge lui avait dit « Mais maître, vous parlez du mari. » Cette phrase m'est restée, quoi. Je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et le juge, pensant qu'elle a fait un lapsus, lui dit « Mais vous vous trompez de client. »
Le groupe FMA va rester très confidentiel. En 68, on ne parlait pas beaucoup féminisme, finalement.
Non, pas du tout. Pas du tout. Et ce qui a fait qu'on a pu rencontrer d'autres femmes, c'est qu'en 70, l'Idiot International, dont le rédacteur était Jean Edernalier, a publié un article de Monique Wittig et de trois autres femmes. Et ça s'appelait « Pour la libération de la femme ». C'était pas du tout le titre que Monique Wittig lui avait donné. Hein. Elle a dit « Pour la libération des femmes ». C'est paru sous ce titre-là. Et on l'a trouvé extraordinaire, cet article, parce que déjà, elle parlait de l'esclavage des femmes. Enfin, c'était un texte très radical. Et on a décidé de les rencontrer.
C'est comme ça que vous allez... commencer à réfléchir, à mener des actions, et notamment l'action du 26 août 1970.
Oui.
Vous décidez d'aller porter une gerbe à la femme du soldat inconnu. Comment ça vient, cette idée-là, alors qu'il n'y a pas du tout d'action comme ça qui existe ?
Mais je ne sais pas, vous savez, on a eu des discussions, vous savez, on avait des discussions très, très longues et très marrantes. Hein. C'est quelque chose qui, apparemment, n'existe plus dans le mouvement féministe. Nous, on rigolait tout le temps. Et ça me manque beaucoup. Et je ne sais pas comment l'idée nous en est venue. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est la première personne qui a parlé de ça, mais en tous les cas, on l'a fait, notre petite marche avec les banderoles et puis la gerbe que je portais, moi. D'ailleurs, il y a une photo où on voit un flic de l'autre côté de la gerbe, et moi, bêtement, je pensais qu'il voulait m'aider. Mais non, il ne voulait pas m'aider. Il m'attirait, et il attirait le reste du groupe vers un endroit que peu de gens connaissent, qui est la jambe gauche de l'Arc de Triomphe, quand vous regardez depuis les Champs-Élysées. Et dans cette jambe-là, il y a un commissariat. Et là, quand on est entré poussé par les flics, d'ailleurs ça se voit dans des séquences qui ont été filmées et retrouvées des années après, hein, ils nous poussaient assez brutalement. Il y avait un commissaire là qui nous a dit « Vous n'avez pas honte ?» Et ça m'a marqué aussi, parce que bon, notre seule présence... rendait impur ce lieu sacré.
Et c'est ce moment qui a marqué la naissance, après coup, du mouvement de libération des femmes. Est-ce que vous aviez l'impression à ce moment-là que quelque chose se passait ou pas du tout ?
Bah, on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir quelles seraient les retombées de ça. Hein. qu'on sait, c'est qu'ils avaient fait conduire à peu près 3 ou 4 cars grillagés. Et puis quand ils se sont aperçus qu'on était que 9, ils nous ont mis les 9 dans une de ces voitures. Et nous, on était absolument déchaînés. D'abord, ils ont fait pimpon avec leurs sirènes. Puis après, ils se sont rendus compte qu'on n'était pas des dangereux révolutionnaires. Et ils ont arrêté. Alors nous, on parlait fenêtre, on criait pimpon, parce qu'on était vexés qu'ils arrêtent leurs sirènes. Après, ils nous ont emmenés dans un commissariat. Et dans ce commissariat, on disait absolument n'importe quoi sur nos identités. Et on était dans une cellule ou je sais pas quoi. Et on chantait des chansons traditionnelles, parce que on n'avait pas encore fait de chansons à nous, donc on n'en connaissait pas. Donc on leur a cassé les oreilles. Après, ils nous ont transférés dans un autre commissariat où ça n'a pas duré longtemps, parce qu'il y a un commissaire qui a dit à Christiane Rochefort, « Mais Madame Rochefort, si vous nous aviez prévenu que vous vouliez faire ça, c'est-à-dire vraiment envoyer le côté, vous savez, comme quand De Gaulle avait dit à propos de Sartre, on n'arrête pas Voltaire, c'est vraiment le côté élitiste. » Bon, donc on était relâchés 2 heures après, quoi. Et on a eu la chance que, du coup, la presse nationale, en particulier l'Aurore, fasse son titre sur nous. Ça nous a permis de rencontrer d'autres femmes qui nous ont contactées grâce à ça. Le problème, voyez-vous, c'est que nous, on pensait qu'il y avait d'autres groupes féministes pendant nos 2 ans d'existence solitaire. Mais on ne savait pas comment les rencontrer, puisqu'on n'avait aucun accès à la presse.
À partir de 1970, des âgés du MLF se tiennent un mercredi sur deux dans l'amphi de l'école des Beaux-Arts à Paris. Mmh. Et vous participez à différents groupes de parole informels. Qu'est-ce que vous apportent ces groupes de parole auxquels vous participez, ces âgés ?
Ça m'apportait surtout de la joie, parce que, je veux dire, de voir qu'on était entre femmes et toutes les femmes qui venaient aux réunions des Beaux-Arts étaient d'accord là-dessus.
Le MLF était non mixte, contrairement à...
Ah ben oui, c'était la première fois qu'on avait un groupe non mixte. C'était la première fois, c'est historique ça. Enfin, c'est historique, je ne sais pas, il y a peut-être eu des groupes non mixtes au 19e siècle. Je ne sais pas, mais Yvette Roudy, par exemple, elle ne comprenait pas du tout. Parce que elle, et elle au pluriel, elle cherchait à avoir des hommes dans leur groupe. Pour les légitimer. Alors que nous, on n'en voulait pas. Toutes les semaines, on avait une femme qui venait d'un groupe maoïste ou trotskiste et qui venait nous expliquer qu'il fallait pas faire des groupes non mixtes. Bah, on rigolait, quoi. Régulièrement, on avait un homme qui venait tout seul et qui nous expliquait ça. Et on lui disait de partir et que ça nous intéressait pas. Et à la fin, au bout de 3 mois, qui venait tous les 15 jours, qui venait un homme, on le mettait dehors quasiment manu militari parce qu'on en avait assez d'avoir à s'expliquer là-dessus. Et ça, c'était pour moi une grande joie. Quel que soit, alors les thèmes qui étaient discutés, c'était vraiment n'importe quoi. Et c'était n'importe quoi, je veux dire, dans le sens que chacune donnait son opinion sur une chose ou disait il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, etc. Et puis régulièrement, les réponses de la salle étaient « oui, mais ça ne suffit pas ». Et on aurait dit qu'une seule action allait à elle toute seule être tellement universelle qu'elle allait gommer toute l'oppression des femmes. Et moi, je passais mon temps à dire, comme Cicéron le disait, « le mieux est l'ennemi du bien ». C'est-à-dire qu'il ne fallait pas renoncer à une action parce qu'elle n'allait pas tout résoudre à elle toute seule.
Et cette non-mixité, vous allez la défendre tout au long de votre carrière, encore aujourd'hui.
Ben, on est obligé.
Qu'est-ce qu'elle permettait à cette époque-là, qu'elle permet encore aujourd'hui ? Qu'est-ce que la non-mixité permet ?
C'est des choses qu'on ne peut pas discuter avec des hommes. Moi, j'avais compris les bienfaits de la non-mixité en voyant les groupes noirs, les groupes pro-droits civiques, se défaire de leurs membres blancs. Ça, je l'ai expliqué dans l'article qui s'appelle « Nos amis et nous », si vous voulez. D'abord, les femmes comme les noirs ont un complexe d'infériorité. Et ce n'est pas juste un complexe. Ils sont traités comme inférieurs et ils l'intériorisent. Donc, ils vont forcément admirer les blancs ou les hommes. Mais en plus, ils n'ont pas vraiment le choix parce qu'ils sont comme dans... dans un job. Les blancs sont leurs supérieurs, et même s'ils... Et les hommes aussi sont leurs supérieurs, donc c'est très difficile de contredire un homme, c'est très très difficile. Et le fait qu'ils se mêlent de choses qui souvent ne les regardent pas, ça n'est pas dissible, parce que, je l'ai expliqué dans la préface de Classé dominé, les uns et les autres, ben les uns sont les uns, et ils savent tout sur tout.
Et alors, qu'est-ce que ça permettait alors?
Ben, ça permet aux femmes de recouvrer leur vraie pensée, de la dire sans avoir peur de choquer qui que ce soit, sans avoir peur de d'insulter ses supérieurs, ou de sans avoir peur de qu'on lui impose de se taire. Et puis, c'est un sentiment plus, un sentiment de, justement, qu'on est pareil, qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont autres que nous.
C'est quelque chose que vous avez découvert vraiment moment du MNE.
Ça crée une joie, et j'étais pas la seule, hein. On était heureuses, hein. On pouvait s'engueuler, mais tout le monde était souriante et exaltée par cette redécouverte de nos sœurs.
Est-ce que pour vous, le mouvement féministe doit être non mixte, ou est-ce qu'il peut être mixte? Est-ce que les hommes ont intérêt à participer au mouvement féministe?
Oui, mais la question, c'est encore de quelle façon ils viennent et avec quelle reconstruction. Si vous voulez, moi, je connais certains hommes qui sont féministes, mais les hommes qui sont vraiment féministes, ils ne vont pas essayer d'intervenir d'une façon, dominante. Or, si on disait simplement qu'une réunion est ouverte aux hommes, ben, ils feraient ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire ils prendraient la parole et ils la garderaient, ou ils couperaient la parole des femmes, ou bien ils leur indiqueraient ce qu'il faut faire. Par exemple, un anthropologue qui est mort maintenant, Meyassou, on avait une réunion avec lui, il dit, mais là, entre nous, par exemple, il n'y a pas de question de genre ou de sexe. Bon, parce que... Et les autres femmes qui étaient là, elle dit, mais si, c'est toujours là. Et je me souviens d'une autre réunion pour préparer un grand colloque Marx à Nanterre, à l'université de Nanterre. Et donc on avait dit ce que nous on voulait exposer, quels étaient les papiers qu'on présenterait. Et bien ce type, qui publie des articles dans Mediapart, il avait dit, ah mais là, dans ce domaine-là qu'on venait de citer, le genre n'intervient pas. C'est-à-dire, voilà, il savait mieux que nous. Là où le genre avait une place ou n'avait pas de place. Et c'est cette arrogance, enfin, cette espèce de truc de gens qui n'y connaissaient rien et qui vont vous expliquer.
Mais du coup, le mouvement féministe ne peut pas être mixte pour vous?
Mais ça dépend de où et comment. Peut-être un jour viendra où il y aura assez d'hommes vraiment féministes pour pouvoir participer à une réunion sans avoir des réflexes d'hommes. C'est-à-dire qu'ils n'aillent pas se présenter, comme c'est la tentation malgré tout de beaucoup d'hommes, comme justement les gens qui recadrent toujours les femmes. Parce que les hommes ont tendance à recadrer les femmes, à leur dire « oui, c'est ce que tu viens de dire, alors c'est pas mal, mais il faut que je te signale que sur tel point, etc. » Non, il faut...
Parallèlement au mouvement de libération des femmes, Christine Delphi, vous participez aussi à l'émergence des mouvements homosexuels puis lesbiens. Le 10 mars 71, par exemple, vous participez à la perturbation en direct de l'émission de Ménie Grégoire consacrée à l'homosexualité, ce qui débouche sur la fondation du Front homosexuel d'action révolutionnaire, le FAR. Puis, devant l'affluence des gays, vous le quittez pour former les Gouines Rouges. Il y avait cette nécessité pour vous de vous retrouver en non-mixité lesbienne au sein du MLF.
Oui.
Ça n'a pas été accepté alors que la non-mixité femme était promue.
C'est ça, c'était très intéressant parce que les autres groupes qui voulaient se créer sur un sujet précis, par exemple le groupe des femmes mariées, il y avait un groupe des femmes mariées, mais il y avait beaucoup d'autres groupes qui se créaient, des groupes de discussion qui pouvaient durer une semaine, deux semaines, trois mois, etc. Et puis... Mais personne ne remettait ça en cause. Mais pour ce qui était homosexuel et hétérosexuel, il y avait beaucoup de résistance à ça. J'avais une très bonne amie à l'époque qui m'a dit « Mais je ne veux pas qu'on me colle une étiquette. Je lui ai dit, ah ben oui, c'est, moi non plus, je ne voulais pas qu'on me colle une étiquette. Mais on m'a collé une étiquette, que je le veuille ou non. Donc on n'était pas du tout dans la même situation et on voulait partir de notre situation. Et une fois, on vendait le torchon brûle avec une femme, je ne me rappelle plus laquelle d'ailleurs. Et ce qui était très intéressant, c'est que quand on rencontrait un jeune couple et on le proposait à la femme, et c'était toujours l'homme qui décidait de le prendre ou non. Toujours. C'était lui qui le prenait, c'était lui qui le payait. Donc, il avait déjà un pouvoir de contrôle sur ce qui serait lu. Enfin, bon. Et alors, les halles n'étaient pas complètement détruites. Il restait un des pavillons de Baltard, je me souviens, et on passait le long de ce pavillon. Et puis, j'ai entendu un jeune homme dire, en voyant qu'on vendait le torchon brûle, dire « Ah, voilà les gouines rouges ». Mais il ne le disait pas avec animosité, hein. Mais pour lui, c'était ça allait de soi, qu'un mouvement de femmes était forcément un mouvement de lesbiennes. Et je me suis dit, c'est un bon nom, ça, c'est joli, c'est poétique, les gouines rouges, et j'ai proposé qu'on s'appelle comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait en effet un fort présupposé d'homosexualité pour entacher tout le mouvement. C'était comme ça que tout le mouvement était vu, que tout le MLF était vu. Et pour nous discréditer, évidemment.
Christine Davy, vous participez à la plupart des actions collectives des premières années, la coordination de la notion de la revue Partisan consacrée à la libération des femmes, année zéro, et puis notamment à la lutte pour le droit à l'avortement et à la contraception. En novembre 70, vous fondez avec d'autres féministes le mouvement pour la liberté de l'avortement et lancez le manifeste des 343 femmes déclarant avoir avorté. Qu'est-ce que vous retenez de cet engagement-là ?
Ben, ce que je retiens, c'est que... On était quelques femmes du mouvement. Là, on avait décidé d'être mixte, c'est-à-dire qu'on accueillait quelques hommes, hein, ceux qui voulaient bien, hein, on ne les tirait pas par la manche. Mais c'était étonnant de voir comment il y avait des résistances à ça. Et je me souviens que le groupe Psychépo, qui s'était formé autour d'Antoinette Fouque, avait des fortes résistances à l'idée de plaider pour l'avortement. Et ne voulait pas. D'ailleurs, au début, il y a toute une quantité de femmes, même du mouvement, qui n'ont pas signé le manifeste. Bon, finalement, c'est grâce à l'aide de personnalités comme Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig et d'autres que le manifeste a été diffusé.
Mais elle a été victorieuse, cette lutte. Il n'y en a pas beaucoup, quand même.
Oui, mais si vous voulez, avant qu'elle ne soit victorieuse, il s'est écoulé 4 ans. Et entre-temps, il s'était formé le MLA, qui était le Mouvement pour la Libération de l'Avortement. Et là, c'était un groupe qui s'était mis à pratiquer des avortements sauvages, si on peut dire, avec la méthode Karman, avec la méthode de l'aspiration. Et en fait, c'est surtout ce mouvement-là qui a fait que les choses ont changé. Parce qu'un manifeste, bon... Ça donne une idée de direction, etc., de refus, oui. Mais ce que le MLA a fait, c'était vraiment formidable. Et s'il n'y avait pas eu tout ça, et puis le fait qu'il louait des cars, et qu'il y avait des banderoles sur le car disant « Nous sommes 50 femmes et nous allons avorter en Hollande », elle n'était pas arrêtée. Ben, si ce mouvement n'avait pas existé, vous vous rendez compte, 4 ans d'action illégale pour arriver à ça. C'était un mouvement vraiment formidable et qui a permis quand même que, ben, on le voit bien dans le discours de Simone Veil, hein, la motivation du gouvernement et de Giscard d'Estaing, qui était président de la République à ce moment-là, c'était pas tellement la liberté de l'avortement lui-même, c'était qu'il pensait que, à force que la loi soit brisée, la loi n'aurait plus aucun sens. Non seulement cette loi-là, mais peut-être d'autres lois. C'était ça.
Comment vous avez vécu cette période d'effervescence, de lutte, de combat à mener, Christine Daffy ? Est-ce que vous pensiez à un moment que le mouvement allait changer votre vie ?
Ma vie à moi, non. Je ne pensais pas que ça allait le changer, non. Ça l'a changé, ma vie, dans le sens que j'avais l'impression que un de mes grands désirs était, peut-être mon grand désir, était finalement réalisé. C'est-à-dire qu'il y ait un mouvement de femmes.
Ça vous porte encore, ces années ?
Ben, ça me porte encore, mais maintenant, avec un certain sentiment de nostalgie. Hein, parce que c'était des belles années, des années où on faisait quelque chose, où on apportait c'était des années d'une grande créativité, hein, sur tous les plans.
Vous avez l'impression que les mouvements féministes ne peuvent pas... C'est plus difficile aujourd'hui de réaliser ce genre de...
Ben écoutez, ça dépend, parce que les mouvements féministes, ils sont comme tout le monde, ils finissent par s'essouffler, les personnes finissent par se fatiguer. Mais là, ce que je vois, c'est quand même un renouveau d'une floraison de petits groupes féministes, et elles peuvent faire des choses.
On évoquera ce renouveau du mouvement féministe ensemble vendredi. En attendant, on se retrouve demain pour le 3e épisode d'À Voix Nue en votre compagnie, Christine Delphi. Nous allons aborder les différents concepts que vous avez forgés et leur genèse. Merci Christine Delphi, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Charlotte Bien-Aimée avec Christine Delphi. À Voix Nue, réalisation Annabelle Brouard, prise de son Pierre Quintard, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.